15h de l'après-midi.
Il est 15h.
Qu'est-ce que tu fais là, toi ?
T'es ramené à un petit souvenir.
L'aléatoire.
On ouvre les tiroirs de la mémoire de la radio du lundi au vendredi à 15h.
Du lundi au vendredi à 15h.
Oui, ça c'est une bonne surprise.
L'Association pour le développement du documentaire radiophonique ADOR a le plaisir de vous présenter Magma Matters. De Clarisse Calvo-Pinsol et Léa Roger. Cette œuvre fait partie de Sentier Sonore, sélection de créations sonores documentaires à destination des radios locales. En préambule, voici une présentation faite par l'auteurice.
Bonjour, nous sommes Clarisse et Léa, les deux réalisatrices du documentaire que vous allez entendre, Magma Matters, où la question de la maladie est abordée dans une perspective globale.
Loin d'apporter une réponse toute faite à ce que serait un bon traitement de l'endométriose, le récit fait émerger des questionnements.
Ceux-ci resteront ouverts, en touchant plus largement des problématiques sensibles, sociétales et politiques qui nous concernent tous.
Et en bonus à la fin, vous entendrez une capsule sonore d'Ella Portiankine, ostéopathe énergéticienne qui intervient aussi dans le documentaire. Bonne écoute!
Comme une espèce de méduse. Si je pouvais mettre un mot vraiment dessus, c'est tentaculaire.
Des fois, je vais chez la gynécologue, elle pourrait me dire qu'elle voit, genre, je sais pas, un frigo ou. Je ferais. Ah ouais, tu m'as fait pas que. Je sais pas, je pense que ça va avec ce truc de. Des médecins qui oublient un truc dans ton ventre dans une opération.
Je me dis, un rapport à la folie dans l'extrémité, quand même, quelque chose de... à se taper la tête contre les murs, quoi. J'ai l'impression que c'est une espèce de... un truc qui est quand même en lutte, quoi.
Un bassin qui est vide et où il n'y a rien dedans. Ouais, comme si c'était inhabité ou déconnecté.
Ouais, comme des tissus de fascia en fait, assez fantomatiques.
Un truc avec des trous et... Non, mais c'est plutôt dur, moi. Une sorte de squelette d'oursin, quoi.
Je vois des éclairs, des pétillements très aigus. Et puis, quand j'ai mal au côlon, enfin, tu vois, c'est des grosses douleurs. Là, je vois des grosses basses, tu vois.
Salut Léa, c'est Clarisse. Je sais pas si tu te souviens, mais on s'est croisés à un concert il y a pas longtemps à Bruxelles. Et je te contacte parce que j'aimerais bien parler avec toi. J'avoue qu'en ce moment, je suis un peu perdue, un peu désespérée. On m'a diagnostiqué une endométriose profonde qui touche pas mal d'organes, de nerfs et d'autres endroits. Et je sais pas trop quoi faire. On propose l'opération, mais c'est vrai que j'ai pas forcément... envie de me faire opérer, j'aimerais bien tester des thérapies corporelles. Et on m'a dit que toi, tu avais pas mal de contacts à Bruxelles. Du coup, voilà, si on peut se voir cette semaine ou la semaine prochaine, moi je suis dispo, donc quand tu veux, quoi.
Du coup, on fait un feu. Il y a plein de voix en plus,
hein. Super journal. Je
À 20 ans, je suis tombée enceinte. Et ça a été très traumatique, cette IVG. Et après, ça a été des douleurs beaucoup plus intenses. Mais je faisais comme si ça n'existait pas. Et je prenais de l'ibuprofène, mais il commençait à plus fonctionner. Donc je voulais des trucs plus forts. Et donc je cherchais sur Internet. Et puis je suis tombée sur le forum d'Optissimo. Ah ouais. Et à un moment, il y a une nana qui répond à une autre nana qui dit « Ah, mais peut-être que t'as l'endométriose. » Du coup, je copie-colle, je vais regarder la page Wikipédia et je me dis « Bon, c'est sûr, je l'ai. » Et du coup, bah, je vais voir ma gynéco. Elle fait une écho. Elle me dit qu'il n'y a rien. Donc je vais voir un autre gynéco, on me prescrit une IRM. Le mec qui me fait passer l'IRM me dit « Bah oui, vous avez une endométriose, vous avez un kyste de 11 cm dans l'ovaire droit et plein d'autres kystes, mais par contre, je comprends pas comment vous faites pour fonctionner avec ça. 11 cm, enfin c'est une balle de tennis. »
C'est qui veut.
Le fait d'avoir été diagnostiquée, c'est parce que ça faisait 2 ans que je faisais l'ostéopathie médecine chinoise suite au fait que j'ai une instabilité émotionnelle tous les mois de l'ordre de 10 jours où je suis incapacitante, quoi, en fait. Et puis j'ai eu un kyste et là, une pote m'a dit « Ouais, bah, je sais pas, ça commence à avoir quand même pas mal de potentiels symptômes de l'endométriose. » Et effectivement, j'étais diagnostiquée. Mais ça s'est très mal passé, mes entretiens avec les médecins. J'ai eu le classique pilule. Et du coup, moi, j'avais vraiment expressément dit, en fait, les hormones, c'est pas possible. Et ce qui a scellé la fin, en tout cas, de ces rendez-vous avec les médecins, c'est quand j'ai dit à la médecin, mais du coup, je vais apprendre jusqu'à quand? Et elle me dit, ben, je sais pas, jusqu'à ce que vous fassiez un enfant. Mais là, j'ai vu le fossé. Du coup, j'ai arrêté les rendez-vous et je me suis pas rencardée plus sur l'expansion de l'endométriose en moi. Ce que je sais, c'est que je suis pas à un stade aussi vénère que d'autres et que moi, ça se situe vraiment beaucoup plus sur un plan émotionnel.
Pareil, émotionnellement, la moitié du mois, en fait, ça va pas. Surtout, donc, 10 jours avant mes règles ou une semaine avant, c'est syndrome prémenstruel, où je suis très instable, très émotionnelle, très en colère. Et ouais, les 2 premiers jours des règles, en général, c'est l'enfer. Je suis dans une bulle parce que j'ai l'impression que personne ne peut comprendre. Où j'annule tout, donc je suis la reine pour poser des lapins parce que en fait je suis incapable de me tenir à ce que j'ai dit quand j'ai mes règles. Je pense qu'il faudrait se prendre ce temps pour soi, pour prendre un bain, lire, rien faire. Et en même temps, ça tombe des fois quand tu t'y attends pas, ou alors c'est plus fort que toi, t'as envie de... d'être entouré, t'as envie d'oublier en fait que t'as ça, quoi. Voilà, voilà.
J'étais diagnostiqué de l'endométriose tardivement par rapport à, je pense, le moment où j'en ai eu. Depuis que j'ai mes règles, j'ai mal. Et vraiment, j'ai eu, depuis, on va dire, la post-adolescence, quand même des symptômes qui sont proches de ceux que j'ai maintenant et que je sais être clairement liés à l'endométriose. Ça a été des douleurs au dos pendant des dizaines d'années. Ma sœur, elle avait de l'endométriose, donc je me suis quand même... assez vite dit que ça pouvait être ça. Et voilà, du coup, j'ai dû insister un peu auprès de ma médecin pour avoir une échographie. Au final, je l'ai eu. Et du coup, je suis sortie de là avec le gars qui me dit vous avez probablement de l'endométriose, quoi. C'est un peu intense comme façon d'être diagnostiqué, parce que je n'ai pas du tout été accompagnée. Là, je suis de mieux en mieux pris en charge et de moins en moins mal, mais pour le moment, je n'ai pas de traitement efficace. J'ai essayé la testostérone. Donc ça aussi, j'ai dû batailler parce que les médecins ne savaient pas du tout que c'était possible de entre guillemets, traiter l'endométriose avec la testo. Mais comme je suis une personne trans, symboliquement déjà, la pilule, c'était compliqué pour moi. Il se trouve que là, je vais essayer parce que la testo, ça n'a pas marché. Quand t'es une minorité dans la minorité, tu vois, genre... Là, il y a une question, l'endométriose, qui commence à être visible, et toi, à l'intérieur de ça, t'es en train de dire « oui, mais ». Donc toi, t'es en train de dire « oui, je suis un mec, j'ai de l'endométriose ». Alors même si je me définis pas forcément comme un mec, mais je simplifie, en général, je dis que je suis un mec trans pour que les gens comprennent. Et ils te disent des trucs du genre que non seulement... T'as pas le droit d'être qui tu es, mais en plus t'as pas le droit d'avoir de l'endométriose. Donc t'es vraiment réduit à genre moins que rien. Il y a beaucoup de... Enfin moi je sais que je sens pas mal d'isolement.
Comment vas-tu, Léa?
Vraiment bien. Il y a une époque dans ma vie où j'étais dans une espèce de cycle qui revenait souvent de dépression, on va dire. C'est très nouveau pour moi d'être dans cette espèce de... quelque chose de stable.
Mm-hmm. Et au niveau du corps, comment ça se passe?
Et au niveau du corps, par contre... Un mois, j'ai eu aucune constipation. Enfin, il y a eu un jour. Mais par contre, j'ai eu mes règles il y a quelques jours.
Ouais.
J'ai eu des poignards dans le ventre. En fait, j'ai eu des douleurs que j'avais plus depuis un moment. Donc, ça m'a un petit peu rendu triste, en fait, en me disant, zut, est-ce que ça repart? Pourquoi c'est là?
D'accord.
Bon, après, j'ai plus du tout de migraines.
Pour moi, c'est pas très surprenant. On peut avoir l'impression qu'on est en train de retomber, mais globalement, ça va quand même mieux. Donc, c'est comme une spirale, mais c'est une spirale montante. Voilà. On a l'impression de refaire le même tour et arriver presque au même symptôme, mais globalement, on est à un autre niveau. Il faut vraiment qu'au niveau à conscience, ça soit vraiment complètement positif et en confiance. Mais ça va s'installer, c'est pas encore acquis complètement, c'est en chemin. Ok, on va travailler?
Ouais.
Je m'appelle Ella Portiankin et je suis ostéopathe. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est bassin féminin pendant ma mémoire de la kinésithérapie en 1997. Et c'est la première fois que j'ai vu que là est vraiment un domaine où les femmes ne sont pas vraiment bien soignées.
Oui, parce que le côlon, il est vraiment un peu enflammé à droite. Et là, le sacrum est sensible. Hein, donc, et pas très loin, il a l'ovaire droite. Donc, ça pourrait influencer.
Et en fait, je ne peux pas dire faire un tableau type d'endométriose. C'est vraiment chaque histoire, elle est différente. Mais ça, c'est sûr que je revois tout ce qui est le ventre. Puis je travaille pas mal au niveau crânien. Il y a plein de correspondances entre le diaphragme pelvien et le diaphragme thoracique. Les tissus doivent bouger, donc en endométriose, souvent on sait que ça peut s'enflammer, ça peut congestionner. Donc il y a des endroits où on détecte réellement des adhérences internes. Donc on va essayer de lui donner un mouvement. Et puis on va voir si ça s'améliore.
Moi, c'est Margot Neve, et du coup, je suis doctorante à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, et je fais une thèse en sociologie sur l'endométriose. J'ai fait des entretiens avec des personnes qui ont la maladie. J'ai fait des observations dans un hôpital dans une grosse ville en France. Ça fait environ 100 ans qu'on connaît la maladie. On sait que l'endométriose ne connaît pas de frontières. On sait que l'endométriose est retrouvée un peu chez en fait, toutes les populations.
Je suis le docteur Maxime Fastret, je suis gynécologue et je suis directeur de la clinique de l'endométriose à l'hôpital Erasme, qui est l'hôpital académique de l'Université libre de Bruxelles. C'est une pathologie qui, comme son nom l'indique, se définit par la présence d'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse de l'intérieur de l'utérus au mauvais endroit, principalement accompagnée de syndromes douloureux chroniques et problèmes de fertilité. C'est une pathologie qui se développe en relation avec les cycles menstruels, mais qui donne toute une série de symptômes qui ne sont pas forcément liés au cycle menstruel. Cette douleur chronique touche de nombreux systèmes et de nombreux organes. On a ouvert la clinique de l'endométriose dans le service de gynécologie obstétrique le 1er avril 2021. Nous proposons une prise en charge multidisciplinaire, c'est-à-dire qui implique l'intervention de plusieurs disciplines médicales et paramédicales.
L'endométriose vient remettre en question vraiment un peu un fondement de la médecine, c'est qu'en fait, il n'y a pas de lien entre le symptôme et le signe. C'est-à-dire qu'on peut avoir une toute petite endométriose, une minuscule lésion, et avoir des symptômes super importants. Il y a plein de personnes qui n'ont pas de diagnostic, qui n'ont pas de bon traitement, aussi parce que les médecins ne sont pas formés. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes digestifs, il y a des personnes qui ont mal à d'autres moments que pendant les règles. Elle peut être retrouvée dans le cerveau, dans les poumons, alors qu'en fait, on va dire, voilà, c'est une maladie qui doit être rattachée aux règles, qui doit être rattachée à l'utérus, qui doit être rattachée en fait à une série de caractéristiques qui sont dites comme spécifiquement féminines. Ce que j'essaie de faire dans ma thèse, c'est de dire que l'endométriose, c'est une maladie genrée, ou en tout cas qu'elle est considérée comme telle, c'est-à-dire qu'elle va être définie, prise en charge de cette manière, alors qu'on pourrait lire ça autrement qu'à travers le prisme des règles, à travers le prisme des hormones. Comment est-ce que la médecine, elle définit le féminin, et qu'est-ce qu'elle propose aussi comme bon féminin? Et au contraire, qui est-ce qu'elle exclut de ses parcours de soins? Qui est-ce qu'elle ne prend pas en charge?
Je pense que les douleurs menstruelles sont trop souvent banalisées. Elles l'ont été dans le passé et elles le sont encore maintenant. C'est une des raisons pour laquelle on tarde souvent à faire le diagnostic d'endométriose, c'est parce qu'on a tendance à considérer que les douleurs menstruelles, c'est quelque chose de normal et de physiologique.
Ok. Mais ça fait un petit temps qu'on s'est pas vu du coup, parce que ça c'est ouais. Depuis le mois d'avril.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Et comment vous allez?
Ça va. Je fais du coup toujours plein de choses pour essayer de soigner l'endométriose. Donc j'ai fait aussi attention à mon alimentation, j'avais arrêté, ça je vous l'avais dit je pense, j'avais arrêté aussi l'alcool.
L'alcool, ça c'était déjà au mois d'avril.
Mais là ça va, en fait avant j'avais des douleurs presque une semaine avant. Et là ça fait à peu près 3-4 cycles que j'ai mal juste quand elles arrivent le premier jour. Donc je trouve que ça c'est une grosse amélioration. Ouais. Par contre j'ai toujours mal à la jambe.
Et du coup... par rapport à l'IRM, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'il y avait des nouvelles lésions d'endométriose?
Alors, ils m'ont dit qu'il y avait toujours au torus, toujours ligament utérosacré droit.
Ouais.
Il y a eu aussi un nouvel endroit qui que je ne savais pas, c'est l'adénomyose, sur le muscle utérin.
Ouais. Mais du coup, l'IRM, c'était pour la cruralgie ou c'était pour voir où on était?
C'était pour voir où ça en était. Ouais. Mais la cruralgie, ils ne le voient pas, en fait.
Ils ne le voient pas.
Et quand je suis allée voir le médecin après, il m'a dit là, je ne le vois pas. Donc, il faudrait ouvrir pour voir.
Ok. Donc, de quoi est-ce que vous auriez besoin ici, aujourd'hui, maintenant?
Peut-être... je sais pas, essayer de soulager par voie interne, encore comme je vais avoir mes règles qui vont arriver, peut-être que ça peut aider.
Ouais.
Et puis, peut-être qu'on avait travaillé... de manière énergétique sur la jambe, ça j'ai retravaillé dessus en hypnose aussi.
D'accord, ok, très bien. On va voir tout ça.
Les médecins spécialistes me disent voilà. Tous les ans, on a des personnes ménopausées, par exemple, qui ont de l'endométriose et qui arrivent dans notre service. Mais en fait, ce n'est pas ça le problème. Si on reprend les termes médicaux, l'endométriose, elle est définie comme étant une maladie qui touche les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire les femmes qui ont leurs règles. Et donc, les personnes qui sont dites ne pas être en âge de procréer, en fait, vont être exclues d'une prise en charge médicale. Et donc parmi eux, on va retrouver les enfants et les personnes ménopausées, et les personnes trans et d'une certaine manière les personnes lesbiennes. Et du coup, l'idée, c'est de remarquer en fait comment certains symptômes vont être présents avant, après les règles, mais vont pas être vus comme problématiques de nouveau, parce que je pense que il y a cette focale autour des règles, autour du travail procréatif. Et en fait, c'est ça un nœud, en tout cas, pour comprendre l'endométriose et comprendre sa prise en charge.
Quand vous êtes enceinte, vous n'allez pas avoir vos règles pendant 9 mois. La majorité des femmes en Belgique allaitent leur enfant. Et donc, après l'accouchement, s'ensuit encore une longue période d'aménorrhée, c'est-à-dire d'absence de règles. Et donc, effectivement, cette période de grossesse et d'allaitement qui est non seulement un climat hormonal très favorable pour la pathologie qu'est l'endométriose, mais aussi cette longue période d'aménorrhée va être une période, effectivement, de répit pour les patientes qui ont de l'endométriose et d'absence de douleur, voire en tout cas de diminution drastique des symptômes. Alors, est-ce que pour autant c'est un bon traitement de la maladie et c'est quelque chose qu'on doit suggérer ? Bien évidemment non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suggérer à une patiente qui n'est pas dans un projet de conception de grossesse de concevoir une grossesse pour traiter une pathologie comme l'endométriose.
Je m'appelle Tommy De Gank. Je suis historien de formation et j'ai fait une thèse à l'Université libre de Bruxelles sur l'histoire de la gynécologie à Bruxelles. Et voilà, j'ai été diagnostiqué d'endométriose, je devais avoir 29 ans. Il y a un constat clinique, on va dire, de les femmes qui enfantent plus souvent. Il y a des signes, où il y a des données qui semblent suggérer que les femmes après souffrent moins ou que la maladie décline. Des chiffres qu'on peut interroger par ailleurs, mais même imaginons que ce soit le cas. Ce qui est en fait intéressant, c'est de constater que ça suffit à créer une hypothèse. C'est-à-dire que ces données-là sont jugées pertinentes parce qu'en fait, elles correspondent déjà à un script social et culturel qui préexiste. Et ce script, c'est de dire, mais en fait, les femmes sont malades quand elles sortent de la nature. Et l'idée qu'il y aurait un programme, en fait, dans le corps humain, chez les femmes, qui ferait qu'en fait elle devrait enfanter à tel âge et que si c'est pas fait, en fait le corps décline et qu'il n'est pas fait pour ne pas avoir d'enfant. Il y a eu des médecins qui ont considéré que ne pas être enceinte c'était un état pathologique. Ça explique aussi pourquoi, au milieu du XXe siècle, il y a eu à différentes occasions des médecins à l'Académie de médecine de France qui disaient qu'en fait finalement l'endométriose c'était une maladie de femme moderne, entre guillemets, donc d'une femme qui travaille et qui n'a pas d'enfant. Et donc, c'est une forme de pathologisation, finalement, de la déviation sociale et sexuelle des femmes. Quand on parle de gynécologie, moi, je trouve que l'existence même de cette discipline est problématique. C'est une discipline qui, par son existence, s'est fondée sur un système binaire, sur une vision binaire de la sexualité et du genre, et qu'il faudrait déjà sortir de ce cadre-là que pour arriver à voir les choses autrement. Pourquoi voir l'endométriose dans le cadre de la gynécologie ? Il faudrait peut-être le voir dans d'autres choses transversales, des questions justement de maladies immunes, des questions d'inflammation, prendre cette question par d'autres points de vue que le point de vue gynécologique.
Là, ce que j'appelle le petit point du Pyrénées, donc à droite. Et ce petit point, il est vraiment dur comme un os. Hein. Tu le sens ?
Ouais.
Oui. Il va être plus mou. Hein. Et donc là, c'est un muscle à peau témoin pour moi de tout ce qui se passe à peau plus haut.
Ok.
Ça va ? Donc là, je vais plonger. Donc là, on va passer. Voilà, tu dis bonjour. Bonjour.
Au colon ?
Non. Le col de l'utérus.
Ah, c'est le col de l'utérus ?
Ouais, il est bon. Bonjour, col de l'utérus. Mais là, il y a comme une petite adhérence. Là. Ça peut être l'endométriose, si tu as eu l'opération. On va voir si en relâchant cet endroit-là, parce que ça, pendant les rapports, tu peux sentir cet endroit-là, ça peut modifier la qualité des rapports. Hein.
Ça me
faisait
mal, quoi.
Et ouais, c'est pas agréable. C'est bien là. On vit beaucoup de choses à travers notre tête et là, ça commence à se déformer. Donc, on doit revenir dans notre corps et à travers cette expérience corporelle, enfin, on lâche certaines tensions. Et si la douleur commence à diminuer pendant la séance, donc c'est la preuve. C'est pas à cause de maman. Ça veut dire que le corps, il est là, il cherche à lâcher prise et il veut se débarrasser de cette douleur-là. Donc il faut y croire. Hein. Ils sont en train de lâcher. Comment tu te sens ? Je suis toujours sur cet endroit-là.
Avant, quand on était là, je voyais plus un mur, et là, c'est plus vallonné.
Ok, super. On va essayer de faire un petit exercice maintenant avec la respiration. Je suis toujours sur cet endroit-là, mais moi, je sens que la contraction